VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 10 minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord le journal. Au Soudan du Sud, le chef de l'ex-rébellion, Riek Machar, est finalement arrivé aujourd'hui à Djouba, la capitale. Il a appelé à l'unité avant d'aller prêter serment comme vice-président. Idriss Fall.
Des colombes symbolisant la paix ont été lâchées à l'arrivée de Riek Machar à l'aéroport de Djouba. Il n'avait plus remis les pieds dans la capitale depuis le début de la guerre civile en décembre 2013. Son retour était attendu le 18 avril, mais a été repoussé plusieurs fois. Monsieur Machar est allé directement au palais présidentiel pour prêter serment comme vice-président. Il s'est dit engagé dans la mise en œuvre de l'accord de paix afin que le processus de réconciliation et de guérison commence aussi vite que possible. Mais le plus difficile est à venir. Pour l'ancien président botswanais Festus Mogae, former un nouveau gouvernement ne sera pas en soi la panacée. La rébellion a fait revenir 1370 soldats et policiers armés qui feront face à 3420 hommes du président Salva Kiir. Djouba est sous haute tension et le moindre incident pourrait remettre le feu aux poudres.
Au Tchad, l'état d'urgence en vigueur dans la région du lac Tchad pour lutter contre les attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram a été prorogé de 6 mois par l'Assemblée nationale. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la radio nationale tchadienne. Cette prorogation de 6 mois permettra de mettre hors d'état de nuire ces diables de Boko Haram qui attaquent quand ils peuvent et par tous les moyens, a déclaré à la radio le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir. Après l'adoption à l'unanimité des 130 députés de la prorogation de l'état d'urgence décrété en novembre 2015. Au Nigeria voisin, les chrétiens subissent des violences continues dans le nord du pays. C'est ce que dénonce l'ONG Portes Ouvertes en donnant le chiffre de 4028 chrétiens tués au Nigeria en 2015. Le point avec Maïlis Egol.
Portes Ouvertes évoque même une menace pour la survie de l'Église dans le nord du Nigeria. Pour cette ONG, les élites musulmanes du nord veulent préserver leurs intérêts. Les islamistes radicaux comme Boko Haram s'attaquent aux chrétiens. Bergers peuls musulmans, que la désertification oblige à migrer, entrent en conflit avec les populations chrétiennes. Quant aux autorités fédérales et locales, elles sont accusées de détourner les yeux sur ces discriminations et violences, alors que la charia est appliquée dans 12 états du nord du pays. Depuis l'année 2000, dans le monde, quelque 1,3 million de chrétiens ont été déplacés et plus de 13 000 églises ont été détruites, fermées de force ou abandonnées. L'Afrique est le deuxième foyer de persécution mondiale et même le premier en termes de chrétiens tués, en particulier au Nigeria.
Au Cameroun, Ifotso a été condamné à la prison à perpétuité. Cet ancien patron de la défunte compagnie aérienne Camair était jugé pour le détournement de 32 milliards 400 millions de francs CFA. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Monsieur Fotso était déjà condamné à 25 ans de prison dans une autre affaire de corruption. Selon une source proche du tribunal criminel spécial, il avait créé, lorsqu'il dirigeait la Camair, 3 sociétés écrans à travers lesquels il louait à la compagnie aérienne des avions, pourtant achetés avec des fonds publics du Cameroun. Les juges lui reprochent aussi d'avoir effectué des retraits frauduleux sur un compte de la Camair. Monsieur Fotso a toujours clamé son innocence. En février, ses avocats avaient décidé de boycotter les audiences du tribunal, dénonçant des vices de procédure.
Au Mali, le gouvernement a lancé hier le tout premier emprunt obligataire de l'État malien, événement qui a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu de Bamako sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé, et en présence d'Amadou Baba Cissé, directeur de la SGI Mali, la société d'intermédiation et de gestion du Mali, en sa qualité de chef de file du syndicat de placement et de mobilisation des fonds. L'explication d'Amadou Baba Cissé au micro de Kadiatou Traoré.
Effectivement, nous avons lancé hier un emprunt obligataire de 65 milliards sur une maturité de 5 ans à 6,20%. C'est une émission pour l'épargne publique. On sollicite l'épargne publique des investisseurs, des particuliers de toute la zone IMOA et des institutions et établissements financiers. Pour une période de 3 mois, la souscription va durer 3 semaines, je veux dire. Et c'est fait pour les investissements, les infrastructures prévues dans le budget de l'État en 2016, notamment la route Bamako-Koulikoro, le deuxième. troisième pont de Kaye, l'étude du quatrième pont de Bamako et certains travaux dans le cadre du sommet France-Afrique 2017.
Pas un nouveau produit pour votre société, mais quand même c'est nouveau pour le Mali.
Je dis que c'est pas effectivement un nouveau produit dans la zone UEMOA. Il y a eu des centaines et des centaines de milliards mobilisés dans la zone UEMOA. Mais effectivement, c'est la première fois que le Mali lance un emprunt obligataire sur le marché financier. Et donc, pour cette raison, il ne fallait pas dépasser ce montant de 65 milliards. Mais nous nous rendons compte déjà 24 heures après le lancement que ça risque d'être un très grand succès, parce que nous ne sommes même pas loin de mobiliser le montant sollicité.
Amadou Babassissé, directeur de la SGI Mali, chef de file du syndicat de placement et de mobilisation des fonds pour ce premier emprunt obligataire de l'État du Mali.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dénoncé aujourd'hui l'assassinat du général burundais Athanase Kararuza et de son épouse hier à Bujumbura. Il demande qu'une enquête complète soit ouverte dès que possible. Conséquence de la crise ponctuée de violence qui secoue le Burundi avec son cortège de sanctions et de blocages politiques, le pays est maintenant devenu l'État le plus pauvre du monde, selon l'AFP. Crise en Libye, la France aujourd'hui prête à aider le gouvernement d'Union nationale libyen à assurer sa sécurité maritime. Déclaration faite par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Cette prise de position de la France intervient alors que le gouvernement d'Union nationale libyen a maintenant pris le contrôle du siège de plusieurs ministères à Tripoli, dont ceux des affaires étrangères, des transports, des affaires sociales, de l'habitat et de la jeunesse et des sports. Un nouveau pas pour asseoir l'autorité de la nouvelle administration dans le pays. Et toujours concernant dans ce dossier libyen, les dirigeants européens et américains réunis hier à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, ont exhorté l'OTAN et l'Union européenne à travailler en commun pour maîtriser les flux de migrants en provenance de la Libye. Des précisions avec Nani Talani.
Les dirigeants ont appelé l'OTAN et l'Union européenne à tirer leçon de l'expérience en mer Égée pour voir comment maîtriser le flux de migrants en Méditerranée centrale, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Le président Obama avait donné son accord au projet italien controversé de patrouille de l'OTAN au large de la Libye pour réduire le flux de migrants vers l'Europe. Berlin soutient le principe d'une mission navale de l'OTAN pour combattre le trafic d'armes, mais aussi de personnes, mais préférerait qu'elle soit sous commandement européen plutôt que de l'OTAN. D'après la ministre italienne de la Défense, Roberta Pinotti, des préparatifs sont en cours pour lancer d'ici 3 mois les premières patrouilles. La présence renforcée de l'OTAN en Méditerranée pourrait décourager les passeurs. L'Italie, en plus, voudrait voir fermer sa route maritime occidentale vers ses côtes et renvoyer les migrants économiques dans leur pays d'origine.
La course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. Les électeurs votent aujourd'hui dans des primaires cruciales dans 5 États américains. La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump espèrent donner à cette occasion le coup de grâce à leurs rivaux respectifs dans la campagne pour l'investiture comme candidat à la présidence. Jacques Aristide.
Les primaires de ce mardi se déroulent dans le Connecticut, Delaware, Maryland, la Pennsylvanie et Rhode Island. Hillary Clinton, qui souhaite devenir la première femme à occuper le bureau ovale, est confrontée à la ténacité du sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Mais l'ex-secrétaire d'État devrait aujourd'hui creuser l'écart en nombre de délégués. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump figure en tête des sondages dans ces 5 États. Même s'il mène largement, son populisme dérange au sein du parti républicain et certains complotent pour l'écarter. Justement, coup de théâtre hier, ses rivaux Ted Cruz et John Kasich ont conclu un pacte pour lui faire barrage, c'est-à-dire empêcher Donald Trump d'arriver avec la majorité absolue de 1237 délégués à la convention de juillet à Cleveland et favoriser ainsi la tenue d'une convention négociée où le parti républicain pourrait choisir un autre candidat que Trump. Un effort tardif toutefois, d'après des observateurs.
Et pour terminer le conflit en Syrie, au moins 19 civils ont péri aujourd'hui lors de bombardements pro-gouvernementaux visant des zones rebelles à Alep et dans la localité d'Atareb, dans le nord du pays. Ces frappes interviennent au lendemain du pilonnage par les rebelles des quartiers tenus par les forces gouvernementales dans l'ouest d'Alep, qui a fait au moins 19 tués et 120 blessés dans la population civile. La guerre a donc repris de plus belle en Syrie après plusieurs semaines de trêve mise en place principalement par les États-Unis et la Russie. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.